Thomas Hardy, le maire de Casterbridge. Chapitre 25. C'est une tentative de visite hasardée par l'Écossais avec une timidité manifeste qui marqua la seconde phase de la substitution de Farfrae à Henchard dans le cœur de Lucetta. En principe, le jeune homme causait avec Miss Templeman et sa compagne, mais en fait, on eût pu croire qu'Elisabeth était invisible dans la pièce. Donald paraissait n'avoir pas d'yeux pour elle et ne répondait à ses sages réflexions que par des monosyllabes d'une sèche indifférence. Ses regards et ses facultés se tendaient vers la femme qui, mieux qu'Elisabeth, pouvait se targuer d'une protéenne variété d'aspects, d'humeurs, d'opinions et aussi de principes. Lucetta avait absolument voulu attirer son amie dans le cercle, mais elle y restait comme un point décentré que ce cercle ne voulait pas toucher. La fille de Suzanne Henchard supportait le chagrin d'une telle froideur, comme elle avait supporté des épreuves plus rudes. Elle s'arrangea dès qu'elle le put, à quitter une pièce où elle se trouvait si déplacée, et où on ne la regretta point. L'Écossais ne paraissait plus être le Farfrae qui avait dansé avec elle, et avait fait montre, en l'accompagnant, d'une tendresse si hésitante entre l'amour et l'amitié, à cette période unique dans l'histoire de l'amour, où on peut le dire exempt de douleur. Stoïquement, elle regardait par la fenêtre de sa chambre, et contemplait son destin, comme s'il avait été gravé au sommet de la tour, sur l'église toute proche. « Oui, » fit-elle enfin, en frappant de la main l'appui de la fenêtre. « C'est lui le second homme de cette histoire qu'elle m'a racontée. » Cependant, le feu qui couvait pour Lucetta dans le cœur d'Henchard avait été attisé par les circonstances mêmes et brûlait chaque jour d'une flamme plus haute. Il s'apercevait que cette jeune femme, pour qui il avait, en un temps, éprouvé une tendresse apitoyée et vite étouffée par la réflexion, était devenue, avec sa beauté mûrie et son inaccessibilité nouvelle, la seule personne qui put lui rendre le goût de l'existence. Jour après jour, le silence de Lucetta lui prouvait mieux qu'une réserve hautaine ne l'amènerait pas à ses fins. Aussi se résolut-il à retourner chez elle, en profitant d'une absence d'Elizabeth Jane. Il traversa le salon d'un pas lourd et un peu gauche, en fixant sur Lucetta son regard ferme et chaud, soleil à côté de la lune quand on le comparait au modeste regard de Farfrae. Il y avait dans son attitude un certain air d'intimité assez naturel, mais la jeune femme paraissait si bien transformée par son changement de situation et lui tendait la main avec un geste de si froide amitié qu'il se fit déférent et s'assit avec une perte manifeste d'assurance. Il ne s'entendait guère aux exigences de la mode, mais en connaissait assez les habitudes pour sentir sa mise déplacée chez cette femme, qu'il s'était accoutumé à considérer presque comme sa chose. Elle le remercia poliment de son amabilité à venir la voir, et lui rendit son assurance. Il perdit sa crainte respectueuse, et dit, en fixant sur la jeune femme un regard ironique, « Naturellement, je suis venue, Lucetta. Que signifient toutes ces absurdités ? « Vous savez bien que je n'aurais pu m'empêcher de venir, même si je l'avais voulu, du moment que j'avais la moindre tendresse au cœur. Je suis venu vous dire que me voici prêt, dès que la bienséance nous le permettra, à vous donner mon nom, en retour de tout ce que vous avez perdu par votre dévouement pour ma personne, quand vous pensiez si peu à vous-même et tant à moi. Vous pouvez, avec mon consentement absolu, fixer le jour ou le mois qui vous paraîtront convenables. Vous êtes mieux que moi au courant de ces choses-là. » « Il est encore bientôt, » répondit évasivement la jeune femme. « Oui, oui, sans doute. Mais vous savez, Lucetta, à l'heure de la mort de ma pauvre et maltraitée Suzanne, quand l'idée de contracter un nouveau mariage m'était intolérable, je sentais déjà qu'après ce qui s'était passé entre nous, je n'avais pas le droit de perdre un temps inutile pour remettre les choses en bon ordre. Je ne voulais pourtant pas venir vous voir trop vite parce que, vous pouvez deviner mes sentiments à la pensée de cette fortune dont vous avez hérité. » Sa voix baissait peu à peu de ton. Il se rendait compte que dans cette pièce, ses accents et ses gestes avaient une rudesse que l'on ne remarquait pas dans la rue. Il regarda autour de lui les tentures nouvelles et le mobilier élégant dont la jeune femme s'était entourée. « Sur ma vie, je ne savais pas que l'on pût acheter des meubles comme cela à Casterbridge, » s'écria-t-il. « On ne le peut pas non plus, et il faudra laisser passer sur la ville 50 années de civilisation pour cela. » Il a fallu un fourgon et 4 chevaux pour amener tout ce mobilier. À la vérité, une telle installation rend un peu difficile mon attitude à votre endroit. Pourquoi cela ? Sentant l'inutilité d'une réponse, Enchard garda le silence. En tout cas, reprit-il, il n'y a personne au monde que j'aurais souhaité de voir plus que vous à la tête de cette fortune, et personne non plus, j'en suis sûr, à qui elle convienne mieux. Il se tourna vers la jeune femme avec un regard d'admiration si chaleureuse que malgré leur vieille connaissance, elle resta interdite. « Je vous suis bien obligée de tout ce que vous me dites, » répondit-elle, comme si elle avait récité une banale formule. Son accent établissait entre leurs sentiments respectifs une si nette démarcation que le maire en conçut aussitôt du dépit, car nul homme n'était plus prompt que lui à sentir une blessure. « Vous pouvez être obligée ou non, mes paroles n'ont peut-être pas le vernis de celles que vous avez depuis peu l'habitude d'entendre, pour la première fois de votre vie. » Mais elles sont au moins sincères, Madame Lucetta. Voilà une façon brutale de parler, gronda Lucetta, les yeux étincelants. Pas du tout, protesta Enchard avec chaleur. Mais voyons, voyons, je ne veux pas me quereller avec vous. Je viens vous faire une proposition loyale pour réduire au silence vos ennemis de Jersey, et vous devriez m'en être reconnaissante. Comment pouvez-vous parler ainsi, répondit-elle, impétueusement. Vous savez bien que mon seul crime a été de me laisser entraîner, sans faire assez attention aux apparences, à une folle passion de jeunesse pour vous, et que je me considérais, moi, comme innocente, quand les autres me traitaient en coupable. Vous ne devriez pas être si tranchant. J'ai assez souffert au jour douloureux où vous me faisiez part du retour de votre femme, et me condamniez de ce fait à sortir de votre vie, et si je suis un peu indépendante maintenant, c'est une compensation qui m'était bien due. « D'accord, acquiesça-t-il. Seulement, dans cette vie, on ne nous juge pas sur ce que nous sommes, mais sur ce que nous paraissons être, et je crois que vous feriez bien de m'épouser, au nom même de votre réputation. Ce que l'on sait à Jersey pourrait bien se savoir un jour, ici. Comme vous revenez toujours à Jersey, je suis anglaise. Bien, bien, mais que dites-vous de ma proposition ? » Pour la première fois depuis le début de leur relation, Lucetta se voyait maîtresse de l'heure, et pourtant, elle hésitait. « Laissons les choses en l'état pour l'instant, » conclut-elle avec quelque embarras. « Traitez-moi en personne de connaissance et j'agirai de même. Le temps pourra... » Elle s'arrêta et ne dit rien pendant quelques minutes pour rompre le silence. Nulle convention de relations nouvelles ne contraignait ces deux êtres à parler contre leur gré. « Ah, voilà d'où le vent souffle !» dit enfin sèchement Enchard, en répondant d'un signe de tête à ses propres pensées. Un flot de lumière jaune inonda un instant la pièce. Le soleil se réfléchissait contre une masse de foin nouvellement bottelée et rapportée de la campagne sur une fourragère au nom de Farfrae. L'Écossais accompagnait lui-même à cheval ce chargement. Le visage de Lucetta s'éclaira comme s'éclaire un visage de femme lorsque se dresse devant elle, comme une apparition, l'image de l'homme qu'elle aime. Un mouvement de tête d'Enchard, un regard sur la fenêtre et le secret de l'étrange réserve de Lucetta lui auraient été révélés. Mais il était si bien plongé dans la méditation qu'avait éveillé chez lui l'accent de la jeune femme, et regardait si fixement à ses pieds qu'il ne vit pas une rougeur de confusion lui monter au visage. « Je n'aurais pas cru cela. Je n'aurais pas cru cela des femmes, » fit-il, d'un ton emphatique, en se levant et en se secouant pour partir. Mais dans sa crainte de lui voir un soupçon de la vérité, Lucetta le priait de ne point se tant hâter. Elle apportait des pommes et voulait lui en peler une. Il ne voulut pas la prendre. « Non, non, ces choses-là ne sont pas faites pour moi, » fit-il sèchement, en se dirigeant vers la porte. Au moment de l'ouvrir, il se retourna vers la jeune femme. « C'est uniquement à cause de moi que vous êtes venu vous installer à Casterbridge, et maintenant que vous y êtes, vous ne voulez plus répondre à ma demande. » À peine avait-il descendu l'escalier que Lucetta se laissait tomber sur le sofa pour se redresser aussitôt dans une crise de désespoir. « Si !» « Je l'aimerais, » s'écria-t-elle, d'un ton passionné. « Quant à lui, il est sévère et violent, et ce serait folie, sachant cela, de me laisser lier à lui. Je ne veux pas être l'esclave du passé. J'aimerais celui que mon cœur choisit. » On aurait pu croire qu'en envisageant sa rupture d'avec Enchard, Lucetta dut aspirer plus haut qu'à un Farfrae. Mais elle ne raisonnait pas, et craignait seulement les rebuffades des gens à qui sa vie antérieure l'avait associée. Elle n'avait plus de parents, et sa légèreté naturelle lui faisait accepter sans déplaisir ce que le destin lui offrait. Elizabeth Jane qui, de la transparente sphère de son cœur sans détour, observait le manège de Lucetta entre ses deux amoureux, voyait que son père, comme elle l'appelait, et Donald Farfrae s'éprenaient plus désespérément chaque jour de son ami. Chez Farfrae, c'était libre passion de jeunesse, chez Henchard, désir artificiellement stimulé de l'âge mûr. La peine que lui inspirait l'oubli presque absolu dont les deux hommes faisaient montre à son égard se dissipait à demi par instant devant l'ironie de la situation. Lucetta s'étant un jour piqué le doigt, les amoureux manifestèrent une consternation digne d'une mort imminente. Devant une maladie sérieuse qui avait mis en danger les jours d'Élisabeth, ils avaient eu un mot banal de condoléance pour en tout oublier aussitôt. En ce qui concernait Henchard, une telle constatation n'allait pas sans amertume filiale. Élisabeth ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'elle avait pu faire pour être ainsi négligée après les protestations de sollicitude dont elle avait été l'objet. Quant à l'indifférence de Farfrae, elle la tenait, après honnête réflexion, pour parfaitement légitime. Qu'était-elle auprès de Lucetta, une des humbles beautés de la nuit, quand la lune s'élevait dans le ciel? Elle avait appris la leçon du renoncement et était aussi habituée à voir chaque jour échouer ses désirs qu'à voir chaque soir se coucher le soleil. Si sa carrière terrestre lui avait mal appris la philosophie des livres, elle avait rudement exercé sa philosophie personnelle. Pourtant, son expérience était moins faite d'une série de véritables déceptions que d'une suite de substitutions. Maintes fois, elle s'était vue refuser l'objet de ses désirs pour recevoir au contraire ce qu'elle n'avait pas souhaité. Aussi contemplait-elle avec une sorte de sérénité le souvenir des jours périmés où Donald Farfrae avait été un secret amoureux, et se demandait-elle quel bonheur non rêvé le ciel allait lui envoyer à sa place.